Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de Chou, la série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins, pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 24 juin 2024. Publication de l'avis de l'ADEME, intitulée « Vague de chaleur ». La climatisation va-t-elle devenir indispensable ? Qu'est-ce que l'ADEME ? En quoi consistent ces avis et qui les rédige ? Dans quel contexte bien particulier celui-ci a-t-il été édité ? L'ADEME, ou plutôt l'Agence nationale de transition écologique, est un organisme public qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Muni d'expertise en interne et de consultants divers et variés, cette agence analyse et évalue les politiques mises en place avec le prisme d'une amélioration continue en faveur du développement durable. Chaque région a son antenne ADEME. Et en Hauts-de-France, elle souhaite mobiliser les citoyens, les acteurs économiques et les territoires en leur donnant les moyens de progresser vers une société économe, en ressources, plus sobre, plus juste et harmonieuse. Vaste programme. Ce dernier avis est donc sorti en vue d'amender le plan national d'adaptation au changement climatique numéro 3. Gros document très important, retardé avec les législatives. Petite parenthèse pour comprendre l'innovation de cette troisième version, encore en écriture mais dont la ligne directrice est déjà connue. Premio, le partage d'une trajectoire de réchauffement de référence, qu'on appelle TRAC. Vous savez, ce sont les divers scénarios émis dans les travaux du GIEC donnant les tendances climatiques en fonction de nos ambitions politiques pour réduire les impacts négatifs sur le climat de nos propres activités. La prise en compte systématique du climat futur, selon les hypothèses partagées de cette TRAC, est une manière efficace pour enfin arrêter de regarder dans le rétroviseur et concrétiser un réflexe d'adaptation dans tous les investissements structurants. À ce stade, la TRAC n'est encore inscrite dans le marbre nulle part. Aller au bout de cette idée nécessitera un nouveau moment politique sur l'adaptation. Deuxio. Étant donné que ce document est toujours en rédaction, il y a encore une multitude de sujets sur lesquels on peut encore avancer. Les conditions de mise en œuvre des nombreuses actions plus techniques identifiées lors des travaux préparatoires du PNAC, du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, sont autant de points de passage obligés pour s'adapter, conduire des analyses de vulnérabilité, mettre à jour des référentiels, administrations, opérateurs publics, gestionnaires de réseaux, associations, d'entreprises, de collectivités, peuvent et doivent continuer à travailler pour permettre aux discussions politiques d'aller encore plus loin, dès qu'elles reprendront. Et pour terminer cette parenthèse, le caractère innovant de ce plan est qu'il engage un changement de vision. D'une ère dédiée à la réaction face au changement climatique, comme par exemple interdire l'extraction d'eau quand les nappes sont trop basses, on passerait via cette nouvelle vision d'adaptation à une ère d'anticipation de tous ces désagréments et dégâts majeurs du vivant, et donc de l'approvisionnement de nos ressources naturelles si on ne se concentre que sur l'impact matériel de la dégradation des écosystèmes. Mais alors, qui finance ? Comme l'ont montré de récents travaux, s'adapter aura un coût, même si celui-ci est moindre, comparé à ne rien faire du tout. Par qui ce coût sera pris en charge ? Comment il sera réparti étape par étape ? Ce sont les questions dont il reste collectivement à se saisir, et où plusieurs pistes ont déjà été explorées, par l'équipe mondiale du GIEC, le groupe international d'experts du climat. Carbon monoxide for me to bear. Mais pour revenir à cet avis publié par l'ADEME, notre agence de la transition écologique, ce PNAC 3 a, grâce aux travaux du GIEC notamment, clairement identifié les conséquences du dérèglement climatique, telles que l'augmentation de la durée, de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur. Dans ces conditions de plus en plus extrêmes, l'adaptation du bâti apparaît vitale pour que les citoyens puissent vivre dans des conditions décentes. Ne pas être à 50 degrés sous les toitures est un des exemples les plus probants, mais on peut aussi mentionner les moisissures qui s'accumulent dans les endroits très peu aérés et qui sont soumis à de fortes chaleurs, et ainsi de suite. Au-delà des solutions passives, comme le déploiement des protections solaires et de l'isolation notamment, le besoin de rafraîchir les bâtiments avec des équipements de production de froid, climatiseurs, PAC en particulier géothermiques, réseaux de froid, devient progressivement inévitable dans de nombreux cas où le bâti est peu malléable aux changements structurels. Toutefois, le déploiement des principales solutions actives du marché actuel, les climatiseurs par exemple, a d'autres impacts qu'il convient de limiter, notamment les îlots de chaleur urbains, la facture énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, les nuisances sonores et visuelles. Les émissions de gaz à effet de serre liées à la climatisation, qui représentent 5% des émissions de gaz à effet de serre de la France, sont essentiellement dues aux gaz réfrigérants que les évolutions réglementaires en cours devraient permettre de résorber à moyenne échéance. Par ailleurs, parmi les solutions actives, certaines rejettent de la chaleur à l'extérieur, ce qui pourrait aggraver les phénomènes d'îlots de chaleur pendant ces périodes de vagues de chaleur. Les solutions actives auront également un impact sur la facture énergétique des entreprises, des collectivités et des ménages, risquant notamment d'aggraver le nombre et la situation des ménages en situation de précarité énergétique. Il est donc nécessaire d'anticiper l'impact des vagues de chaleur, d'après cet avis de l'ADEME, en planifiant en priorité des actions de réduction des besoins de froid, isolation, protection solaire ou encore brasseur d'air, gestes et comportements adaptés, tout en suivant les diverses recommandations de ce dernier avis. À savoir, utiliser les systèmes actifs les plus respectueux de l'environnement, faisant appel aux énergies renouvelables et utilisées de façon sobre, continuer de développer l'innovation dans les solutions de rafraîchissement sobres et efficaces, développer les connaissances sur les impacts de l'augmentation des vagues de chaleur, sur l'habitabilité des logements, sur les inégalités sociales, sur les factures d'électricité des ménages et des entreprises, et sur l'activité des entreprises et de l'industrie. Enfin, pour les collectivités, cela signifie renforcer la planification de l'adaptation aux vagues de chaleur, cohérente à l'échelle de la ville et des bâtiments, en anticipant les solutions d'aménagement urbain adaptées, des solutions fondées sur la nature par exemple, et le besoin en réseau urbain de froid. Toutes ces recommandations seront soumises à l'appréciation des rédacteurs du fameux PNAC 3, soumis dès lors que le pays aura retrouvé des jambes pour marcher. Nos territoires Hauts-de-France sont uniques. Entre industrie et diversité culturelle, entre grande ruralité et petits milieux urbains, entre agriculture de grande production et réserves naturelles sur des sites hérités des activités emblématiques du territoire, les mines. S'intéresser au bâti est dès lors comme un moyen de revenir à une échelle humaine, à l'échelle de l'habitant. Que diriez-vous de tendre la feuille, ne serait-ce qu'un instant, à l'histoire de l'une de ses habitantes? Le jardin de Baba.
Baba, ma grand-mère, vit dans un cabanon tout près de l'autoroute, derrière un terril de soufre. Un terril qui ressemble à une pyramide égyptienne, jaune d'or, comme le soleil en plein midi. Mon père me conduit chez elle tous les matins. Au début du trajet, il fait encore nuit, mais je vois le soleil se lever au-dessus de la mer. On dirait que les montagnes sont des ventres de baleines. Quand mon père me dépose, Baba ne vient pas à ma rencontre, mais je sais où la trouver. Je vais directement dans la cuisine. La voilà, environnée de buée. Elle fait cuire des pommes de terre. Elle danse entre l'évier, le frigo et la gazinière. D'une main, Baba épluche une betterave. De l'autre, elle ouvre un tiroir, pendant qu'avec sa jambe, elle ferme le frigidaire. Et comme toujours, quand elle cuisine, je l'entends qui bourdonne et fredonne. La maison est remplie des récoltes de son jardin. Il y a une tresse d'ail pendue au plafond, des pots de cornichons dans la salle de bain, des betteraves dans le placard à chaussures, des carottes sur le fauteuil, des tomates sur le balcon et des pommes au pied de son lit. Je m'assois et j'attends mon petit déjeuner. Avec Baba, on ne se parle pas beaucoup. Un signe de tête, un geste, ça nous suffit. Une caresse sur la joue. Et je ris. Tous les matins, Baba me prépare la même chose. Du gruau avec son pesant de beurre et avec du chou, des cornichons et des betteraves du jardin. Tout ça dans un bol si grand que je pourrais nager dedans. Puis, Baba me regarde manger. Quelquefois, j'en renverse un peu. Baba attrape le morceau tombé sur la table. Elle lui fait un baiser, puis elle le remet dans mon bol et me caresse gentiment la joue. Ma mère dit que Baba n'a pas mangé à sa faim quand elle était petite, pendant très très longtemps. Je mange tout ce qu'il y a dans mon énorme bol. Et Baba m'emmène à l'école. Quand il pleut, Baba marche lentement tout en fredonnant des chansons que je ne comprends pas. Baba marche lentement parce qu'elle guette les vers de terre. Elle les voit qui se tortillent dans le caniveau, dans les gouttières, dans les flaques d'eau. Alors, Baba les ramasse pour les mettre dans le petit bocal rempli de terre qu'elle garde dans sa poche. Tous les jours, Baba m'attend à la sortie de l'école. On rentre par le chemin du bord de mer, on contourne le terril et on arrive dans le jardin. Il y a tant de choses à voir, à sentir, tant de choses à manger, trop même. Baba se met à genoux à côté du pommier, des tomates, des carottes et des concombres. Elle chantonne un peu plus fort, puis elle renverse quelques vers sur le sol et les recouvre de terre. Quand je lui demande pourquoi elle fait ça, avec son doigt mouillé par la pluie, elle caresse, une à une, les lignes de la paume de ma main. Alors, je me mets à genoux, à côté du pommier, des tomates, des carottes et des concombres, et tous les deux, nous renversons les vers sur le sol et les recouvrons de terre. Et le bocal se vide. C'était comme ça, jusqu'à ce que ma grand-mère vienne habiter chez nous. À la place de son cabanon, ils ont construit un immeuble. Le jardin est toujours là, mais il ressemble à une jungle. Maintenant, c'est mon père qui me conduit à l'école le matin. Je ne marche plus beaucoup. Baba dort dans une chambre au bout du couloir, à côté de la mienne. Et tous les matins, je lui apporte son gruau avec une pomme coupée en tranches. Mes parents n'ont pas le temps de s'occuper d'un jardin. Mais comme Baba a gardé des graines de tomates cerises, je les ai plantées dans un petit pot, sur le rebord de sa fenêtre. Je n'avais jamais rien planté avant. J'espère qu'elles vont pousser. Baba me tapote gentiment les lignes de la main. Par la fenêtre, on regarde la pluie qui tombe sur le terril jaune d'or et sur les montagnes en forme de baleine. Et soudain, je me souviens. Alors, je me précipite dehors, sous la pluie. Je marche lentement et je ramasse tous les vers de terre que je peux trouver. Baba, ma grand-mère, est née en Pologne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Baba et sa famille ont beaucoup souffert. Après la guerre, elle a émigré au Canada où elle s'est installée dans la petite ville côtière de Port Moody, en Colombie-Britannique, avec Diadec, mon grand-père. Ensemble, ils vivaient dans un cabanon derrière un terril de soufre, juste à côté de l'autoroute Barnett. Diadec construisait des chemins de fer et Baba était femme de ménage. Lorsque je suis née, Diadec était déjà décédé. Baba vivait seule dans le cabanon et c'est là que nous passions la plupart de notre temps ensemble. Elle ne parlait pas très bien anglais, alors nous communiquions souvent avec des gestes, des contacts, des rires. Nous communiquions aussi grâce à notre amour de la nourriture. Tout petit, je remarquais qu'elle avait ses habitudes bien à elle. Elle gardait des copeaux de savon sous l'évier jusqu'à ce qu'elle en ait assez pour en faire un nouveau pain. Elle stockait des vivres dans chaque recoin de la maison. Lorsque je faisais tomber accidentellement de la nourriture, Baba se précipitait pour la ramasser. Elle l'embrassait et me la redonnait. Elle me regardait alors manger et disait « Mange, tu es trop maigre !» Parfois, elle le disait en riant. D'autres fois, elle pleurait. Baba adorait les vers de terre. Chaque matin, ou après un orage, elle m'emmenait dehors pour les chercher sur les trottoirs et dans les gouttières. Ensemble, nous renversions les vers de terre dans son jardin luxuriant. Elle me disait que lorsque les vers creusent, ils augmentent l'eau et l'air qui pénètrent dans le sol et apportent des nutriments à la terre. Je suis maintenant un adulte et je ramasse toujours des vers de terre. Mes enfants aussi. Ma baba serait fière.
Un vers de terre longe cette route d'un avenir où le vivant invisible est la dernière poutrelle de nos sociétés et de notre alimentation. L'invisible sous nos pieds est une source d'angoisse pour certains de nos artistes, tandis que d'autres saisissent un imaginaire fantaisiste pour démystifier les merveilles qui se meuvent dans la matière brune et les sous-sols. Au Louvre-Lens a pris place ce mois-ci une exposition dont la thématique était le monde souterrain. Que se passe-t-il sous terre ? À quoi ressemblent ces mondes qui nourrissent nos imaginaires depuis la nuit des temps ? En réponse à nos questionnements que suscitent toutes les formes de vie sous terre, réelles ou rêvées, l'exposition propose une exploration sensible de ces mondes souterrains. Dans un parcours de plus de 200 heures, ouvert aux arts de toute époque et civilisation. Des gravures de Gustave Doré aux sculptures poétiques d'Eva Jospin, l'exposition invite à un fabuleux voyage de l'ombre vers la lumière. L'œuvre de Giuseppe Licari, intitulée Humus, est une installation à partir d'une souche provenant de Douai, coupée lors d'une construction immobilière. Les racines sont au-dessus des têtes du visiteur, qui se doit ainsi de regarder le résultat d'une urbanisation croissante, considérant ces géants chlorophylliens comme un moindre mal s'ils sont détruits. Déambuler dans les méandres racinaires, peut-être est-ce notre condition d'être vivant qui est remise en cause. Un jour à couper, ce qui le lendemain sera notre dernière demeure. 6 pieds sous terre. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight. She'll want the devil on her team. My love so far is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say now. Tu y as péché où? Baobab, acajou. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une passionnée du vivant, cuisinée aux petits oignons.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.